la mobilité de la personne de Paris.
Radio Mobile Paris.
Radio Mobile Paris.
Radio Mobile Paris.
The Paris Girls on the Radio.
Radio Mobile Paris.
Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission spéciale de Radio Mobile Paris.com en direct et en public à la mairie du 17e. Une émission très spéciale aujourd'hui car nous participons à la 35e édition des semaines d'information sur la santé mentale, les SISM, pour les connaisseurs. Alors notre émission d'aujourd'hui est spéciale à plus d'un titre. Déjà, nous ne sommes pas dans nos lieux habituels. D'habitude, Radio Mobile Paris pose ses micros dans différents lieux, au restaurant au coin de Malte, les lundis, une fois par mois, les vendredis au SAMU Social, plus exactement la Maison dans le Jardin, sous le Barnum. Et aujourd'hui, nous sommes à la mairie du 17e. Et nous proposons une expérience toute particulière aujourd'hui, car nos chroniqueurs chroniqueuses habituels sont remplacés par une table ronde soigneusement concoctée par Isabeau. Et je vous propose de vivre cette expérience musicale, conviviale, radiophonique du dispositif Radio Mobile Paris. Bienvenue à tous.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir ici. Toutes les personnes que nous avons invitées, les acteurs du 17e arrondissement. Ce que je vous propose de faire tout d'abord, c'est un petit tour de table ronde en disant votre prénom, ce que vous voulez, votre fonction. Et puis après, on parle de ce que nous faisons ensemble. Thierry, je te passe la parole. Vas-y.
Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Thierry Cuenot, je suis salarié du Secours catholique à Paris. Nous avons plusieurs accueils dans le 17e et dans tout Paris. Merci pour la table ronde.
Marie-Christine de Vassal, je suis bénévole au Secours catholique depuis 15 ans. Je fais une matinée, petit déjeuner et un atelier écriture, dessin, parce que après expression libre, et une matinée de maraude. Voilà.
Bonjour à toutes et tous, moi je suis Claire, je suis infirmière, collègue d'Isabeau et j'anime Radio Mobile Paris.
Bonjour, moi c'est Cécile, je suis directrice de l'accueil de jour Le Filon, qui est un accueil de jour dédié aux femmes. J'y travaille depuis 2018.
Bonjour, Adelaïna, éducatrice spécialisée au Filon. Je travaille là-bas depuis 3 ans.
Bonjour, Solène, infirmière de l'EMPP, du coup collègue d'Isabeau et de Kevin, qui va prendre la parole après.
Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Pablo, je suis partie de l'équipe de Radio Mobile Paris, collègue d'Isabeau et de Claire.
Et moi, je suis Romain de Radio Mobile Paris, aux manettes.
Et je suis une autre Solène de la table, je suis salariée à la CIMAD de dans les locaux du 17e. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Isia, je suis bénévole asile à la CIMA du 17e et co-référente avec Solène du pôle santé mentale.
Bonjour, Kevin, je suis collègue d'Isabeau et de Solène au sein de l'équipe mobile psychiatrie précarité du Nord-Ouest de Paris.
Je suis Isabeau, donc infirmière à l'équipe mobile psychiatrie précarité du Nord-Ouest de Paris. Et le Nord-Ouest, c'est le 8, 9, 17 et 18e arrondissement. Et c'est pour ça que nous vous avons invité, vous, acteurs du 17e. On se connaît tous plus ou moins bien. C'est sympa de se retrouver ensemble et réfléchir et discuter sur nos objectifs communs, je crois, qui sont le lien social, la création du lien social, l'accompagnement des personnes vers le droit commun, la prévention en santé mentale pour un public précaire. Donc, je vais vous passer la parole. Voilà, il y a 3 structures. Il y a l'accueil de jour des apnins, il y a l'accueil de jour Le Filon, et puis la CIMAD et le MPP aussi, qui va un petit peu nous expliquer ce qu'ils font. Je me sens un petit peu extérieure, là, de l'EMPP. Et commençons par la CIMAD, par exemple.
Alors, pour commencer, peut-être dire que nous sommes une association nationale. qui a 85 ans, donc vieil asso, qui a toujours agi en solidarité avec les personnes étrangères. Nous sommes organisés en région et là, en Île-de-France en particulier, donc nous avons 14 lieux d'accueil des personnes, 14 lieux principalement autour de la permanence juridique, l'accès au droit. Et nous, dans Paris même, nous avons 4 lieux, et dont le lieu de Batignolles, au 46 boulevard des Batignolles, donc juste à côté. Donc nous faisons de l'accueil des personnes étrangères, 2 jours par semaine sans rendez-vous, et aussi d'autres moments avec rendez-vous. Et donc c'est vraiment sur l'accès au droit, donc tout ce qui est régule, asile, séjour, mais aussi sur les enjeux autour de l'éloignement, expulsion des personnes. Nous sommes aussi mobilisés sur d'autres enjeux, comme par exemple les prisons, la rétention administrative, mais aussi on fait de la sensibilisation, on fait de la formation, donc par exemple sur comment lutter contre les préjugés. Enfin, je vous invite à aller sur notre site si vous intéresse, parce qu'on a pas mal d'outils qu'on met à disposition. Voilà. Que vous dire d'autre ? L'année dernière, pour vous donner une idée, on a accueilli dans nos permanences un peu plus de 22 000 personnes sur 2023. Pour un peu plus de 300 bénévoles, si je reprends mes chiffres, même 391 bénévoles qui sont actives et actifs auprès des personnes étrangères chaque année. On essaye aussi de travailler sur cet enjeu de plus en plus présent et en tout cas qui nous interroge et qui est aussi une demande des personnes qu'on reçoit sur la question des bonnes orientations, du bon réseau et de la question de la prise en charge en santé et en santé mentale. Voilà.
Oui, parce que j'avais une petite question par rapport à la CIMAT. J'ai cru comprendre que vous étiez en train de travailler sur un projet de sensibilisation au psychotraumatisme, c'est ça ?
Oui, du coup, le projet, il est tout nouveau. On est 3, donc Solène, Stella, que vous connaissez toutes et toutes, et moi. Et donc, en fait, on a essayé de sensibiliser à la santé mentale, principalement des demandeurs d'asile qu'on rencontre en permanence et qui sont autant fragilisés par... les conditions d'accueil que par le parcours migratoire et les antécédents dans le pays d'origine. Et donc, on essaie de sensibiliser et de prévenir sur leur propre santé mentale. Donc, récemment, on a créé un petit flyer qui va bientôt sortir où on essaie de sensibiliser sur l'anxiété, le fait de mal dormir, d'avoir du stress post-traumatique qui va être traduit d'ailleurs en plusieurs langues. Et on essaie aussi de sensibiliser les bénévoles à cette santé mentale qu'ils rencontrent en permanence, parce que forcément ça a un impact sur leur propre santé mentale d'accueillir en permanence des personnes qui ont subi des violences. Et voilà, donc on essaie à la fois de sensibiliser nos bénévoles de la CIMAD, mais également les personnes qu'on accompagne au quotidien.
Peut-être pour préciser, on parle là des demandeurs d'asile, mais toutes les personnes étrangères aujourd'hui qu'on rencontre ont des parcours complexes qui vont, on le craint, être de plus en plus complexes. Donc la question de la santé mentale est vraiment très très présente, indépendamment du parcours en fait des personnes étrangères.
Peut-être que la CIMAD oriente des personnes au filon. Donc je passe le micro à Cécile.
L'accueil de jour a ouvert ses portes en février 2017. L'idée, c'était de créer un lieu de répit en journée pour les femmes. Donc, c'est un accueil qui est dédié exclusivement aux femmes en situation de grande précarité. Donc, ça veut dire qu'ils sont ou en situation de rue, ou hébergés chez des tiers, ou déjà dans d'autres dispositifs d'hébergement. Il y a une particularité, c'est que c'est un accueil de jour qui est participatif. Donc on a vraiment cette notion de collectif et de faire ensemble qui est très forte. Ça fonctionne comme une petite maison, un appartement qu'on fait vivre tout ensemble, donc salariés, bénévoles et personnes accueillies. On travaille autour de 3 axes. Donc le premier, c'est l'accueil. Donc comme je l'ai dit, voilà, l'idée c'est de pouvoir être accessible à toutes du lundi au vendredi, sauf les mercredis et maintenant les samedis aussi. Il y a des services qui sont proposés, qui sont assez essentiels, comme des douches, lave-linge, sèche-linge, ordinateur, zone de repos et une cuisine qu'on peut utiliser aussi pour soi. Il y a une consommation de repas chauds sur place, donc tout ensemble autour d'une table. On essaie de proposer des repas aussi équilibrés que possible. On sait que c'est aussi important, autant pour les enjeux de santé physique que aussi pour des, sur le long terme aussi sur la santé mentale. Ça peut avoir aussi un impact. Donc c'est un axe qui est important pour nous. Et puis après, il y a tout l'accompagnement social. Et là, je laisserai la parole à Adelaina. L'accompagnement social, c'est tout ce qui est ouverture de droits. Donc voilà, c'est très vaste. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a un focus important sur la santé mentale et donc l'intervention de l'EMPP. Je te laisserai détailler. Et puis après, on a un troisième axe au filon qui est tout ce qui est projet atelier collectif. Et donc, l'idée, c'est de chaque après-midi proposer quelque chose aux personnes. Et puis, il y a des projets sur le long cours aussi qui sont créés directement avec les personnes, qui peuvent être créatifs. Voilà. Et on a des ateliers de sensibilisation sur différents sujets, dont la santé. Et c'est vrai que beaucoup santé physique actuellement. Et c'est vrai que la santé mentale, c'est pas forcément encore quelque chose qu'on a abordé de manière collective. Et voilà, ça peut être aussi une piste. On le fait plutôt au niveau individuel. Voilà, je laisse la parole à Adelaina.
Du coup, l'accompagnement social proposé au Filon, c'est un accompagnement global sur les différentes thématiques qu'évoquait Cécile. Donc, ça peut être l'accès aux soins, les démarches auprès de la préfecture, un espace aussi d'écoute. Et il était primordial aussi de pouvoir réorienter vers le MPP pour avoir un espace spécifique, du coup, pour les femmes accueillies. Les femmes accueillies au Filon, pour la plupart, ont été ou sont victimes, du coup, de violences. Et il est nécessaire qu'elles puissent être, du coup, accompagnées spécifiquement à ce sujet.
Je voulais juste, parce que c'était intéressant ce que disait la CIMADE, et c'est vrai que nous, on a quand même une majorité de personnes qui sont ici d'un parcours migratoire, plus ou moins récent. Et que il y a un moment où nous, le partenariat avec le MPP, il existe depuis longtemps en fait, depuis des années. Voilà, avec Kevin, Nadia, si tu nous écoutes. Et c'est beaucoup renforcé ces, je dirais, 2-3 dernières années, parce qu'on s'est rendu compte que sans ça, en fait, l'accompagnement social, même dans des démarches administratives, était très compliqué. Parce qu'il y avait des freins à lever. Alors évidemment, on peut pas, c'est du court terme, mais le fait que le MPP intervienne très régulièrement chez nous et qu'on ait aussi des permanences psy, avec une psychologue qui intervient sur une durée maximale de 6 mois. C'est pas beaucoup, 6 mois, pour des personnes qui ont vécu ce qu'elles ont vécu, mais ça permet déjà de travailler certaines choses et d'avoir un espace de parole autre que celui dans l'accueil de jour et auprès de la référente sociale, qui absorbe déjà pas mal de choses. Donc voilà, c'est un partenariat qui est vraiment très très précieux. Je voulais juste ajouter ça.
Merci Cécile. On va passer à l'accueil du jour des apnins, avec lequel aussi on est partenaire depuis bien longtemps. Thierry et Marie-Christine, je vous laisse présenter.
Merci beaucoup. Merci pour l'initiative, effectivement. On est content de se retrouver grâce à vous, le MPP, qui fait le lien en fait, entre nos structures. Brièvement, le Secours catholique est aussi une association nationale présente dans 72 délégations, 50 000 bénévoles, hein, c'est le cœur de notre action, 900 salariés, ce sont les bénévoles avec qui portent l'action de terrain. À Paris, on est une vingtaine de salariés pour 1 000 bénévoles, avec différents lieux d'accueil présents. On a coupé Paris en 4 et donc on représente la Caritas de Paris Ouest, le 17e, 15e, 16e, 17e, 7e et 8e. Et donc, moi, j'accompagne ce réseau de solidarité sur ce territoire. Ce que j'ai découvert, effectivement, en arrivant aux Apennins il y a quelques années, 2018, c'est qu'on avait un peu l'appréhension des publics hommes, majoritairement, qui sont accueillis aux Apennins, dans cet accueil de jour, 38 rue des Apennins. On avait un peu cette appréhension de cette précarité qui est la santé mentale, finalement. Et on était plutôt en. Voilà, on ne savait pas trop, on tâtonnait. Et je crois que grâce aux bénévoles, grâce à l'ensemble des équipes EMPP, que je remercie aussi pour leur présence, on a pu se documenter, on a pu appréhender, on a pu lutter contre les préjugés, on a pu aller vers les personnes d'une manière un peu plus humaniste, je dirais. Et en se formant, on est aujourd'hui en capacité, je crois, de dire qu'on. On sait accueillir, on ne sait pas toujours non plus être forcément comme il faudrait tout le temps, mais je crois qu'on fait beaucoup, on essaye de faire au mieux grâce à notre réseau de bénévoles pour devenir un accueil inconditionnel, y compris sur ce sujet. Voilà. Avec des présences, on est ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi matin autour d'un petit déjeuner qui touche un public en précarité, isolé, principalement des hommes, public femmes, 10-15%. Et on va proposer un accueil, petit déjeuner, surtout une écoute. Ce que beaucoup nous disent, c'est que certes, ça peut être le seul repas de la journée, mais ils reviennent parce qu'il y a l'écoute bienveillante, l'écoute, fraternelle. C'est de là que va démarrer l'accompagnement, c'est de là que va démarrer l'accès aux droits, c'est de là que va démarrer le conseil de maison, parce que régulièrement on se réunit avec eux pour identifier différentes choses autour de l'action collective, qui peut être des sorties culturelles, sorties musées, ciné-club, ateliers sport, ping-pong, etc. Et je pense qu'on a des choses à partager sans doute plus autour de l'action collective ensemble. Ce que j'ai découvert aussi qui fonctionne par rapport à cette précarité santé mentale, qui peut être les ateliers d'écriture. Voilà, j'ai vu beaucoup de talents cachés qui s'expriment en fait. C'est un peu notre rôle, cœur de métier, c'est de chercher le talent caché de ces personnes en fait. Hein. Et j'ai vu beaucoup de choses dans la décoration du lieu, dans la mise en place d'une bibliothèque, dans l'autogestion de plein d'activités. Et pour ça, ben, on a des bénévoles comme Marie-Christine à qui je vais donner la parole, qui anime, qui prend voilà, du temps pour patiemment, même s'il y a 2, 3, 4 personnes, la richesse de ses écrits m'a toujours interpellé et bouleversé. Et on ne sait pas toujours quoi faire de ses écrits aussi, on ne sait pas toujours comment les relater. Voilà, donc je veux bien lui passer la parole et puis qu'on ait un petit échange après entre nous sur comment mieux travailler encore ensemble.
Oui, on avait créé cet atelier qu'on a appelé Expression libre, parce que certains souhaitaient écrire, d'autres dessiner, d'autres peindre. En fait, pour eux, c'était une façon aussi de les valoriser. Et il y avait un échange toujours intéressant. Alors, je donnais un thème, et les uns et les autres écrivaient. Et parfois, c'était une peinture, et je disais, mais pourquoi pas, on n'écrirait pas sur cette peinture. Donc, il y avait des croisements comme ça, des échanges. Et à chaque fois que les textes étaient lus, les uns et les autres s'écoutaient vraiment dans le respect. Il y avait eu vraiment un échange, c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que là, j'ai découvert vraiment des talents invraisemblables. Et pour moi, ça a été vraiment un regard complètement différent sur ces personnes. Et on avait créé à l'époque un petit journal qui s'appelait L'envers du décor, où on ne mettait que les textes, quelques informations en plus, bien sûr, mais spécifiquement les textes, les dessins, pour montrer que ces personnes, derrière cette personne qu'on peut voir délabrée ou vraiment dans un état dont certaines étaient à la fourche, d'autres dans la rue, etc., il y avait derrière ça, il y avait vraiment un élément de talent. Ça a été vraiment, pour nous, c'était important de montrer ça.
Merci Marie-Christine. Oui, en effet, tu nous as apporté un texte. Kevin, tiens, je te passe la parole parce que c'est un monsieur que tu as bien connu, ainsi que les apnés. Je te passe la parole.
En fait, il s'agit d'un homme, Jean-Philippe, que moi, j'ai connu à mon arrivée sur l'équipe mobile il y a 7 ans à peu près. Et avec ma rencontre avec les apnés, avec Marie-Christine, avec l'équipe. Et notre équipe, encore plus les apnés, ainsi que d'autres partenaires, on a essayé de faire ce qu'on pouvait autour de lui pendant ces années, de l'accompagner, d'essayer un peu le soin, d'essayer un peu accompagnement social, et on l'a porté comme on a pu jusqu'au bout. Et du coup, là, je vais laisser Marie-Christine compléter.
Rire et fou rire. Le fou rire ne peut être gras. Je le vois. Allez savoir pourquoi. Élégant, aristocrate et underground. J'imagine deux adolescentes trouvant dans le fou rire un refuge anti-adulte. Le rire est attendu. C'est la route nationale. Quand le fou rire s'apparente à une charmante départementale, coquelicot, marguerite et autres chardons sauvages. Le fou rire, c'est du hors-piste poétique. Il ne touche pas, il effleure.
On peut avoir une pensée pour Jean-Philippe parce qu'il nous a quittés cet été. Il est décédé. Il avait l'habitude de résider dans la station de métro de La Fourche. C'est là où on allait le voir régulièrement. C'est là où il venait nous voir aussi, aux Apennins. Et Marie-Christine et d'autres bénévoles allaient le voir tous les vendredis. C'était un peu le lieu de rendez-vous dans la station de métro de La Fourche. Il est décédé cet été, voilà, il s'en est allé. C'était un guitariste aussi, qui a une vie passionnante par le passé. Et c'est un peu voilà, en sa mémoire qu'on a amené ce petit texte. Et ce qui était sympa, c'est qu'en plein Jeux Olympiques, commémoration, un petit rassemblement a eu lieu dans notre local cet été. Près de 30 personnes se sont réunies en sa mémoire le jour de ses funérailles, parce qu'on ne pouvait pas forcément tous assister à ses funérailles. Voilà, donc une trentaine de personnes qu'il connaissait de près, de loin, des partenaires, des bénévoles, se sont réunies en sa mémoire ce jour-là. Voilà, donc c'est aussi prendre ce temps-là, finalement, avec d'autres pour s'arrêter quand on accompagne quelqu'un et que ça s'arrête.
Radio Mobile Paris.
Non, j'aimerais un petit peu que Claire, qui est ici présente aussi, puisse nous parler un petit peu du dispositif de l'atelier thérapeutique qu'est Radio Mobile Paris.
En fait, l'atelier, il s'inscrit aussi à partir des EMPP. Alors, est-ce que nos collègues, vous voulez un peu présenter le travail des EMPP et puis moi, je poursuivrai avec la radio.
Donc du coup, l'EMPP, c'est l'équipe mobile de psychiatrie précarité. Donc il y en a 4 à Paris, plus celle du 13e arrondissement. Et on intervient dans tous les arrondissements de Paris. L'idée, c'est d'aller à la rencontre du public qui présente des difficultés au point de vue de la santé mentale, de pouvoir les accompagner et les rattacher vers le soin. Donc notamment des personnes qui sont loin des soins, donc en rue, dans les accueils de jour, dans les centres d'hébergement. Donc on les rencontre, on évalue un peu la situation et en fonction, on oriente vers les partenaires et vers les dispositifs qui existent sur Paris.
Voilà, et donc la Radio Mobile Paris, en fait, c'est un groupe thérapeutique à médiation, en utilisant donc la radio, les micros et la musique. Donc on a commencé en septembre 2021. En fait, les personnes précaires, les personnes à la rue, les personnes exilées qui ne sont pas rattachées à un secteur de psychiatrie parce qu'elles sont, elles sont en errance, elles n'ont pas accès au groupe que peut proposer la psychiatrie, en fait. Parce que voilà, il n'y a pas de temps de groupe. Et l'idée, c'était de proposer aux personnes qu'on accompagne d'être en groupe, d'être à nouveau en groupe. Parce que souvent, elles sont en groupe dans les accueils de jour, dans les centres d'hébergement. Mais c'est plutôt des situations qui sont imposées et pas forcément choisies. Et le fait d'être en groupe et de prendre du plaisir, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et donc, on s'est dit que la radio, ça pouvait être intéressant. Moi, j'avais connu ce dispositif en Argentine parce que il y a une radio qui existe depuis 30 ans à Buenos Aires, qui s'appelle la Radio Califata, et qui est une radio c'est un groupe pareil qui se passe dans les jardins d'un hôpital psychiatrique. Voilà, donc on s'est inspiré de ce dispositif en ajoutant un pianiste pour musicaliser, accompagner, soutenir, contenir aussi les échanges. Et c'est vrai que pendant les émissions, le fait qu'il y ait la musique, ça permet qu'à un moment donné, si on s'arrête de parler, ben c'est pas le vide. Voilà, ça permet de prolonger un petit peu ce que la personne a dit, de raisonner, de faire résonance chez chacun sans que ce soit angoissant. Voilà. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Isabeau.
Je rajouterais qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là, nos chroniqueurs, ils nous manquent un peu. On les a vus lundi au coin de Malte, les personnes exilées. On a parlé, on peut le dire, on peut le dire ou pas ? Ce n'est pas un secret médical. On a parlé de la confiance en soi et de la confiance en l'autre. C'était très intéressant. Et vendredi, on a une émission en direct de la Maison dans le Jardin à 14h. Donc écoutez-nous, parce que là, on est enregistré. Il y a du monde qui nous écoute. Donc vendredi aussi à 14h, vous pouvez nous écouter. Et bah non, mais moi j'y suis depuis janvier et c'est très enrichissant. Voilà, c'est une autre façon aussi d'aborder le soin, de sensibiliser à la santé mentale aussi, de les rencontrer. C'est une autre façon de rencontrer le patient, enfin la personne, quoi.
C'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles des fois à aborder ou qui émergent pas dans les entretiens individuels. Et en fait, le fait que l'un d'entre eux raconte une histoire, eh ben, ça va faire écho chez l'autre et l'autre, il va rebondir. Et du coup, voilà, il y a toute une trame en fait, qui va se construire et un thème qui va émerger. Et on va parler de ce thème-là, de thèmes qu'on n'aborderait pas. Moi, je me souviens que quand la Côte d'Ivoire elle a gagné la Coupe d'Afrique, on est parti de là, en fait, de cette victoire de la Côte d'Ivoire, parce qu'on avait pas mal de participants qui étaient originaires de la Côte d'Ivoire. Et finalement, on en est arrivé à se poser la question du patriotisme. Est-ce qu'on peut être encore patriote de son pays quand on l'a quitté dans un contexte de violence? Voilà, donc c'est vrai qu'après, chacun se met à raconter des choses que ça peut lui évoquer. Et c'est vraiment, je pense, en se soutenant les uns les autres, en faisant des associations, en fait, que ça permet d'arriver à quelque chose. Et puis que même celui qui parle pas, il écoute, il s'imagine des choses, voilà, puis un jour il parle. Enfin.
Je partage tout à fait, effectivement, au Secours catholique, dans le local des Apennins, on a la chance d'avoir une équipe de bénévoles qui change tous les jours. Et on peut avoir des personnes comme ça qui viennent, lundi ils vont pas parler, le mardi ils vont pas parler, et tout d'un coup le mercredi ils vont se mettre à parler avec d'autres bénévoles. La parole va se libérer avec une personne et pas forcément avec d'autres. Donc, c'est un peu la même chose pour les partenaires, tu parlais de confiance. Je crois qu'on arrive à bien travailler ensemble parce qu'on a mis du temps, mais on se fait confiance. C'est le cas de d'autres associations qui ne sont pas là, mais je pense à l'association La Cloche qui vient dans notre accueil, Entourage, Les Enfants du Canal, Robin des Rues, etc., etc. Je crois qu'à partir du moment où on s'ouvre et qu'on fait confiance aux partenaires qui rentrent dans nos accueils, je crois qu'on gagne, on a intérêt à travailler comme ça pour les personnes qu'on accueille, en fait. On leur facilite grandement la tâche. Et on a encore à progresser sur toute cette précarité numérique aussi pour ce public autour de la santé mentale. C'est affolant, je veux dire, la numérisation leur fait du mal en fait. Hein. Donc comment on peut accompagner mieux encore ça? Je discutais tout à l'heure avec l'espace parisien des solidarités. Voilà, je les attire, je les encourage à venir vers nous dans nos accueils pour nous aider et aider nos publics encore mieux en fait. Hein. Très souvent, on orientait, mais ce sont des publics qui sont personnes qui sont fatiguées en fait de la rue, de la précarité, qui sont pas numérisées. Voilà, donc je crois beaucoup dans le aller vers, donc faire venir dans nos lieux tant que faire se peut. Voilà, tout au maximum de nos structures en fait.
Alors du coup, de mon côté, je serais un peu sur un discours, je dirais pas opposé, mais en tout cas parallèle, c'est que en vous écoutant, ce qui est assez sûr, c'est que pouvoir créer de l'espace de discussion, de l'espace collectif, mais aussi de l'espace de donner du temps à la parole, du temps, de la confidentialité, des bonnes conditions aussi, c'est quelque chose qui est très très important pour que justement la personne puisse s'exprimer, puisse déposer des choses. Et un peu le constat, nous, qu'on fait, en tout cas à la CIMAD, c'est que on a des limites sur ces questions et que nous, on n'est pas toujours en capacité d'offrir ça. Et que face à ça, on a deux possibilités. Soit on change notre modèle et on accepte qu'on va développer une autre manière de faire les choses. Soit on se dit qu'on veut travailler en réseau et on veut pas seulement dire aux gens... aller ailleurs, vous trouverez quelque chose que vous ne trouvez pas ici, mais plutôt travailler en réseau, c'est-à-dire quand on conseille à une personne d'aller dans un autre lieu, de faire du lien avec cette association, ce collectif, ce lieu, et qu'en fait la personne y aille en toute confiance, un peu comme si la confiance était partagée, parce qu'elle nous fait confiance, alors elle fera confiance dans le lieu, et aussi faire du lien entre nous, salariés ou bénévoles, c'est-à-dire se contacter et dire voilà, j'ai vu une personne, elle souhaiterait venir, quand est-ce qu'elle peut venir, quand est-ce qu'elle peut être accueillie. C'est extrêmement important parce que je pense aussi, on le dit souvent aux bénévoles de la CIMAD, on n'est pas par exemple soignant. On n'a pas vocation à le devenir et c'est une de nos limitations qu'il faut reconnaître. Et c'est aussi pour ça qu'on valorise tant le travail avec le MPP, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais dans notre projet, bien sûr, il y a le partenariat avec le MPP. C'est qu'en fait, on reconnaît aussi nos limites sur ces questions et faire intervenir dans nos locaux, oui, mais parfois aussi orienter, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, en tout cas, pour faire au mieux, de manière la plus pertinente possible, ce travail avec les personnes. Et en fait, nous, on ne fait pas de prise en charge globale et on n'est pas capable de le faire, on le reconnaît. Et c'est pour ça qu'on valorise autant de pouvoir travailler en bonne intelligence avec d'autres associations, d'autres partenaires. Voilà.
Mais c'est vrai que nous, en tant que filon, c'est quelque chose qui questionne beaucoup de dire ben, c'est quoi l'aspect thérapeutique en fait, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique dans ce qu'on peut, dans ce que porte le collectif et l'échange aussi entre pairs. Et ça dépend de quelle action tu mènes, c'est-à-dire que dans des lieux où on peut se poser, comme les accueils de jour, où il y a cet aspect collectif, moi je pense qu'il peut y avoir des aspects thérapeutiques qui passent par plein d'activités et plein de choses différentes. Mais par contre, ça ne doit pas se substituer, c'est pas le même travail du tout que l'intervention de professionnels. Et ça, c'est vrai qu'il faut l'avoir bien en tête, que c'est hyper, hyper important et qu'en fait, c'est une complémentarité totale. Mais c'est vrai que nous, on a toujours fait très attention, même sur les ateliers qu'on proposait. Au début, par exemple, les gens qui se présentaient en art thérapeute, pour nous, ça nous faisait bizarre parce qu'on disait « Mais attends, thérapeute de quoi ?» On était un peu frileux, en fait. On avait toujours peur que les personnes puissent intervenir et puissent... ne pas comprendre le public. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte avec l'expérience, mais après peut-être Adé, toi je sais pas ce que t'en penses, mais que finalement on pouvait être aussi dans un truc un peu de protection et donc d'une posture où on veut protéger en fait les personnes qu'on accueille. Et en fait ben non quoi, enfin je veux dire, si une personne vient et veut mener un atelier d'art thérapeute, nous on est là en tant qu'encadrant, donc avec notre expérience de ce public on peut voir ce qui va au-delà du cadre ou pas, mais que finalement oui, il peut se passer des choses, ça peut faire du bien aux personnes d'une autre manière, et que finalement c'était assez important. Mais oui, je trouve que toutes les questions de santé mentale, c'est assez inhibant, enfin, pour quelqu'un qui ne vient pas de ce monde-là, et les professionnels, les travailleurs sociaux, etc. etc. Et d'ailleurs, je rebondis parce que nous, on s'est beaucoup inspiré de ce que vous faites et qu'en fait, on a créé un podcast aussi. Donc, on avait envie de donner la possibilité aux personnes de s'exprimer, en tout cas hors nos murs. Parce qu'effectivement, même quand nous, on n'est pas là, le collectif, il vit et il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et ça fait du bien, enfin, même d'écouter quelqu'un qui vit la même chose que soi, ben, en fait... ça fait une différence énorme. Et des choses qui se disent dans le cadre de l'accompagnement social ne se diront pas dans le cadre du collectif. Et les personnes avaient envie de s'emparer de l'outil, donc de l'outil média. Donc là, en l'occurrence, c'est un podcast, donc ce n'est pas du direct, donc c'est rediffusé. Mais c'est enregistré dans nos locaux, donc dans un lieu qu'elles connaissent bien, où elles se sentent en confiance. Et il y a des enregistrements aussi dans un studio. Donc ça permet de vivre aussi une expérience autre. Et ça permet de parler de beaucoup de choses. Et en fait, elle se livre beaucoup. Et la préoccupation, c'était de se dire, et d'ailleurs, on en parlait avec Romain, c'était parce que ce n'est pas le même cadre que Radio Mobile. Là, il y a vraiment l'aspect un peu plus thérapeutique, parce que vous êtes là, vous êtes des pros aussi de cette question-là. Donc nous, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'on fait si les personnes parlent et ensuite se réécoutent derrière et que c'est compliqué, en fait? Donc, on s'est beaucoup posé cette question-là. Et après, pareil, on s'est dit, bah, finalement, les personnes sont responsables, sont majeures. En l'occurrence, on accueille des femmes isolées majeures. Donc, tout ce qu'elles disent, en fait, on a fait une réécoute là, du premier épisode qu'on a enregistré. Et il y en a pour qui ça faisait très bizarre de se réécouter et d'écouter notamment des témoignages qui étaient durs. Et des témoignages qui étaient durs aussi à écouter pour d'autres personnes bénéficiaires qui étaient là. Donc ça vient questionner énormément de choses. Mais on pense vraiment qu'au final, même si ça vient faire bouger des choses, ça fait bouger. Et donc il y a quand même quelque chose qui est positif. Voilà. Et après, on a le support autour des professionnels qui peuvent éventuellement nous aider si voilà, il y a un souci ou quelque chose. Mais ça questionne, c'est vrai. Le fait de se livrer et ensuite être réécouté, qu'est-ce que ça fait ?
Juste un mot, ça fait écho effectivement sur les actions collectives. Il y a le soin effectivement, et puis après il peut y avoir les actions collectives qu'on propose. Moi j'ai souvenir, je vois des personnes qui traversent tout Paris pour un atelier ping-pong pour participer à du karaoké, par exemple. Je vois que la force du chant aussi est un peu thérapeutique, finalement, et peut valoriser la personne. Voilà, les ateliers d'écriture, bien sûr, les sorties culturelles, le musée, le silence devant un tableau. J'ai vu des gens qui se transforment dans un petit moment d'une sortie culturelle au musée. Voilà, c'est des choses. Le ciné-club, souvent on me dit, mais je vais jamais au cinéma. J'ai rencontré des gens qui sont jamais allés au cinéma de leur vie et qui me disent, je voyage avec les films qu'on présente. Des choses simples, mais qui font écho, qui font résonance. Pour revenir aussi à la posture, en fait, qu'on a pu se former grâce aux professionnels qui sont là. En fait, dernièrement, on s'est posé un cas de conscience d'une personne qui était violente à l'extérieur de notre accueil et qui a causé un certain nombre de difficultés, de violence dans la rue et qui fréquentait notre accueil. Donc, quel était notre rôle, finalement, à partir du moment où cette personne a violenté des bénévoles de notre association ? Et voilà, on a pu mieux comprendre quel allait être notre rôle. Est-ce qu'on engage une démarche ? Est-ce qu'on encourage un dépôt de plainte ? Les personnes qui se sont fait agresser ? Comment on va prendre soin de la personne qu'on connaît, qui fréquente notre accueil ? Et grâce à vous, en fait, on a pu se sentir épaulé, accompagné pour faire un signalement au Bureau d'action de santé mentale. Et là, je pense qu'on n'aurait pas su le faire seul. Effectivement, c'était quelque chose de très important pour notre réseau de bénévoles à cet instant précis, voilà, pour que la personne prenne soin d'elle, soit accompagnée, et puis que nos bénévoles aussi voient qu'on prend aussi soin d'eux à ce moment-là, et remettre en place de la relecture, de l'écoute, si les personnes ont été traumatisées, bien entendu. Voilà, donc je pense que c'est aussi tout ce travail de fond qui est fait en amont, qui permet de d'avancer et de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux comprendre ce que l'autre a comme capacité aussi à nous apporter. Et c'est ce travail aussi qu'on peut se féliciter tous ensemble, les uns les autres.
Pour compléter un peu ce que disait Thierry, il y a une dimension dans le travail qui est le nôtre au sein des EMPP, qui est aussi le soutien aux aidants de première ligne, et c'est une partie qui est très importante dans ce travail-là, parce qu'on sait la difficulté que peut être la rencontre pour la personne qui se retrouve en première ligne face à l'autre, exilé ou pas, en très grande souffrance. Et notre place auprès des partenaires aussi, c'est de soutenir, d'étayer, de porter, d'aider des fois à mettre du sens dans des choses, dans des rencontres qui des fois ne paraissent pas avoir de sens. Et c'est une des grandes parties de notre travail aussi en tant que MPP, du coup, le soutien aux personnes, aux aidants.
Pour ajouter à la suite de Kevin, je pense qu'on peut dire aussi que le partenariat se fait vraiment dans les deux sens, de la manière que nous aussi, on peut orienter vers les accueils de jour, vers la CIMAD, vers les dispositifs qui existent. Il y a vraiment un échange de connaissances, de compétences, etc., entre les différents partenaires. Donc ça, c'est intéressant aussi. On n'est pas que là pour soutenir les équipes, mais aussi pour être accompagné dans notre travail.
Et pour rebondir sur cette question du soutien aux personnes qui soutiennent, je pense qu'il y a aussi un gros chemin à faire de ce côté-là. Dans la mesure, enfin, en tout cas, là, je parle du côté d'un espace qui n'est pas un accueil de jour, donc où il y a un accompagnement juridique, administratif des personnes, où constamment on a ce rappel du temps, de l'urgence, il faut agir, il faut faire, et où finalement, la question un peu de comment je me sens par rapport à ça est très peu abordée par les personnes reçues, mais aussi par les personnes qui reçoivent. Et où, en fait, la question de parler santé, comment je me sens, est éludée. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire. Et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de la question de la sensibilisation, mais aussi de la sensibilisation des équipes, de prendre le temps et de pouvoir poser quand ça ne va pas, et de pouvoir s'arrêter aussi, de prendre un temps de recul par rapport à sa pratique, parce que sinon, on fait mal et on peut nuire. Et donc toute cette question de ne pas nuire aux personnes qu'on souhaite aider, c'est quelque chose d'assez fondamental et qui commence par prendre en compte le fait que accompagner une personne qui ne va pas très bien peut être difficile pour la personne qui accompagne.
Et je crois que nous, avec la radio, ce qui est un peu central, c'est qu'on prend appui sur la culture, sur la musique, sur la poésie, sur l'actualité. Mais c'est vrai que la présence du pianiste, des micros, du côté artistique, ça ouvre en fait toute une sphère qui est très riche. Et, parce que c'est des personnes qui n'ont plus accès à la culture. Autant que ce soit les personnes, les grands exclus ou les personnes exilées, le milieu culturel, l'endroit de rencontre culturelle, il est très rétréci, quoi. Voilà, donc c'est vrai que s'appuyer sur la culture, c'est quelque chose d'assez central.
Ça les éloigne aussi de la réalité, un temps, et des besoins primaires. Ou manger, ou dormir, ou se vêtir, ou se laver. Voilà, ils ont besoin de ça aussi, je crois.
Radio Mobile Paris.
Radio Mobile Paris.
Radio Mobile Paris.
Est-ce qu'on parle peut-être de la thématique de cette année des sismes 2024, qui est en mouvement pour la santé mentale ? Voilà, moi je me posais la question, étant relativement extérieur aux professionnels de la santé mentale. Quel est le bénéfice du mouvement dans le psychisme ? Quel est le bénéfice du mouvement pour la santé mentale ? Pourquoi être en mouvement, finalement ? Qu'est-ce qui peut soigner dans le mouvement et à quoi cela s'opposerait ?
On peut parler du mouvement physique. Là, on peut parler sport et du mouvement psychique. Et on sait que la tête et le corps sont très liés. Et que il nous arrive, nous soignants et même vous bénévoles ou acteurs dans ce milieu-là, de dire faites du sport, c'est important de se bouger, c'est important pour la tête, quoi. Et le mouvement psychique, lire un livre, c'est un mouvement psychique pour moi. Si quelqu'un ne lit plus, ne bouge plus, reste chez lui, il n'est plus en mouvement total, quoi. Donc, il est proche de la dépression, on va dire. Bon, voilà, ça me fait penser à tout ça.
Moi, ça me fait penser aussi, bien sûr, à ça, mais à quelque chose de très simple. Finalement, il y avait un frein chez nous dernièrement pour des personnes accueillies aux Apennins. C'était un moment de dire quelle place on leur laisse, quelle participation ils peuvent prendre dans des tâches du quotidien, en fait. Voilà. Est-ce que mettre la table, est-ce que d'aller chercher le pain à la boulangerie, est-ce qu'on a confiance en eux pour faire toutes ces petites tâches ? C'est une forme de mouvement finalement aussi. Et est-ce qu'on repère que des personnes qui sont en bonne santé pour le faire ou la personne qui est volontaire, bah même si il est en difficulté santé mentale, on lui fait confiance pour aller chercher le pain. Voilà. Et aujourd'hui, on a mis en place un atelier vaisselle. Pour des raisons budgétaires, tout simplement. On est appelé à faire des économies sur les postes ménages. Et on s'est dit, on va faire participer les personnes. On se retire, on fait un pas en arrière et on laisse la place pour que ce mouvement, il ait lieu, en fait. Le mouvement, pour moi, il fait écho au pouvoir d'agir des personnes qui est un peu enseveli ou quelquefois sous la précarité, en fait. Comment on leur donne la possibilité de retrouver ce pouvoir d'agir, le mouvement quel qu'il soit.
Aussi, d'un autre côté, le public qu'on accompagne, il y en a qui sont toujours en mouvement et trop en mouvement. Enfin, c'est comme si que le sol, il se dérobait sous leurs pieds, qu'ils étaient obligés de courir comme ça pour pas se casser la gueule, quoi. C'est peut-être pas le bon mouvement, enfin, j'en sais rien, mais des fois, il y a trop de mouvement aussi. Trop de mouvements nuiraient la santé mentale, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça.
Quand il y a trop de mouvements, ou peut-être aussi une façon de maîtriser l'angoisse. Donc on part, on fait, et après ça, on ne réfléchit plus. On éloigne l'angoisse, on éloigne Yann. C'est un petit peu ça qui fait penser à ça, moi.
Bah chez nous, quand on est tout autour d'une table, parfois il y a des silences. Et en fait, il faut être à l'aise avec ça aussi. Bah, ça fait un peu penser aussi à qu'est-ce qu'on fait quand, quand on parle plus. Et je pense que des fois, c'est nécessaire aussi.
Un des paradoxes, je trouve, de cette invitation au mouvement, c'est qu'en tout cas, pour les personnes que nous rencontrons dans nos permanences, la plupart sont figées. C'est-à-dire pas parce qu'elles le souhaitent, mais parce qu'on les fige. Et on les fige dans une situation administrative, on les fige dans un... Elles sont bloquées, elles sont matériellement bloquées, elles ne peuvent plus avancer. Soit qu'on leur dise, vous allez encore attendre 18 mois sans rien faire, ou peut-être en faisant plein de choses, mais en tout cas en étant figées administrativement parlant, sont parce qu'elles essayent d'être en mouvement, elles essayent d'avancer dans des parcours, et en fait, matériellement, ce n'est pas possible. Donc, on sait la dématérialisation, enfin, tout ce que connaissent les personnes étrangères, et pas seulement, d'ailleurs. Et donc, c'est un peu ce paradoxe de dire aux personnes qui sont figées, soyez en mouvement, appelez au mouvement. Alors, comme on dit, on va chercher du mouvement autrement, autre part, peut-être justement en faisant un pas de côté, en orientant vers d'autres associations, d'autres structures qui pourront proposer ce mouvement, parce qu'en fait, dans l'espace administratif et juridique, le mouvement n'est pas possible. Et donc, je trouve ça d'autant plus... Alors, ce n'est pas savoureux du tout, mais ça questionne. Est-ce qu'on peut être en mouvement quand sa vie administrative est figée?
En fait, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, on sait que parmi les personnes qu'on rencontre, il y a des souffrances psychiques qui sont en partie induites par cette attente insupportable dans laquelle les lenteurs administratives peuvent placer les personnes pour le coup exilées. Et pour nous, se pose la question de comment accompagner les personnes dans cette insupportable attente et les souffrances qu'elles peuvent majorer ou générer.
L'heure a tourné, il est bientôt 15h30. Merci à vous, tous les acteurs de la santé qui ont participé à cette émission Radio Mobile Paris, à cette table ronde. Merci beaucoup à Isabeau de les avoir invités. Merci aux ENPP, merci à la CIMAD, au Filon, merci aux Apennins. On a l'habitude, nous, dans nos émissions, à faire un dernier petit tour de micro. Chacun son tour, dise un mot ou dise au revoir. C'est parti.
Merci de nous avoir accueillis ici. Je pense que le mot de la fin, donc j'aimerais bien reposer, c'est... Travaillons ensemble, s'il vous plaît. C'est important, c'est nécessaire. C'est salutaire même. Voilà.
Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Moi, je suis assez contente d'avoir enfin une tête sur les acteurs avec lesquels on travaille. Et voilà, c'était très intéressant. Et comme dit Solène, continuez de travailler ensemble. Et voilà.
Je ne vais pas être très original, mais continuons à faire du lien autour des personnes qu'on accompagne.
Oui, c'était super de se voir dans un contexte un peu spécial, mais sympa. Et non, ça fait du bien de se voir de temps en temps. Et je trouve que le mouvement, c'est un bon thème. Tu dis ça, je dis rien.
Oui, je suis d'accord avec toi. Le mouvement, moi, j'ai apprécié aussi d'être avec vous tous grâce à l'invitation. Poursuivons dans ce sens-là. On veut bien inviter la radio à un autre moment aussi. Le Secours catholique est ouvert pour vous recevoir, une forme à inventer. Hein. C'est aussi des partenariats comme ça qu'on peut saisir et se renvoyer la balle aussi pour vous remercier avec plaisir.
Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant d'écouter les uns et les autres. Il faut qu'on continue, qu'on ne lâche pas l'affaire.
Merci à tous et toutes. Merci Isabeau pour tout avoir organisé avec les collègues de l'MPP aussi d'être venus. Merci à la ville de Paris aussi pour soutenir le projet Radio Mobile Paris. Et puis à bientôt.
Merci, et c'est très agréable d'être ici avec la musique et je comprends que ça ait du succès.
Merci et au plaisir de vous accueillir au Filon. À bientôt.
Merci de l'invitation. Merci Zabo d'avoir tout bien organisé les choses et merci à la radio d'accompagner et à la musique.
Merci à tous, c'était Radio Mobile Paris. On se retrouve bientôt en direct. Cette émission sera retransmise en podcast sur le site radiomobileparis.com. Au revoir à tous.